Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, c'est le Super Catch Up, analyse du SmackDown du 15 décembre et du Monday Night Raw du 18 décembre 2023. Nous sommes toujours en 2023 et pour m'accompagner en cette fin d'année, on l'a retrouvé. Il était en train d'accrocher ses grosses boules à son sapin. C'est génial, salut génial.
Ouais, salut IRM, salut à tous. Très content d'être revenu parmi vous. C'est vrai que j'étais un peu absent, j'ai fait beaucoup de ça là, en septembre, du coup j'avais pris pas mal de masse, du coup j'avais plus un slip à ma taille. Il a fallu quand même que je retrouve et que j'en fasse broder un. Typiquement, ça a pris un peu de temps, donc c'est pour ça que je suis de retour que maintenant. Vous m'en excusez, mais plus énervé que jamais.
Tu es notre Randy Orton, tu es revenu gonflé comme un bœuf.
Exactement.
Bon écoute, effectivement, bah, ravi que tu aies pu rattraper. C'est vrai que à la WWE, Géliel, il se passe des choses toutes les semaines. C'est incroyable, mais effectivement, on arrive fin d'année. On se dit toujours fin d'année, ouais, ça va se calmer un petit peu. C'est des périodes des fêtes. Eh bien non, on a eu justement le retour de Randy Orton. Et en plus, ce soir, à SmackDown, Géliel, il y avait le chef tribal. Enfin, de retour, hein, on s'en plaignait un petit peu, c'est vrai que ces derniers mois, il y brillait par son absence presque, hein, la Bloodline perdait un petit peu de sa saveur, perdait un petit peu de, son, voilà, de ses dorures, c'était une faction qui était un petit peu en retrait, et bien il est de retour le patron pour remettre l'église au centre du village, et quel village, Paul Heyman, Solo Sikoa, Jimmy Uso et notre ami le champion WWE Undisputed, Universel, Roman Reigns. Nous sommes avec Green Bay, qui reconnaît évidemment, qui acknowledge hein, le chef tribal. Mm-hmm. Et effectivement, il veut parler d'un homme ce soir, il veut parler d'un homme en particulier, il veut rendre hommage, quelqu'un qui a tout sacrifié cette année. Quelque chose qui est incroyable, qui est tout simplement le prochain chef tribal, hein, celui qui est le prochain sur la liste, celui qui va prendre la relève de Roman Reigns. Et donc, on est en train tout simplement d'adouber le petit prince de la Bloodline. Et là, on voit Jimmy qui se frotte les mains tout content en arrière-plan. Génial, hein, tu l'as bien vu toi aussi. Et là, il commençait déjà un petit peu à se chauffer, comme ça, remuer les épaules. Et puis, bah, justement, il a appelé par Roman Reigns. Il dit, allez, viens avec moi, rejoins-moi pour féliciter ton frère Solo Sikoa. C'est donc Solo Sikoa qui est adoubé par Roman Reigns. Gros câlin. Et on n'ira pas plus loin. Hein. Jimmy qui fait bah, le sourire jaune, hein, il sourit, mais il a le cœur brisé. Il a le cœur brisé. Et la musique de Randy Orton qui vient pour interrompre Roman Reigns. Randy Orton qui donc revient épais comme un bœuf, comme on le disait. Ça fait 18 ans et voilà qu'il est là. Rien n'est gagné. On pensait tous qu'il est sur la touche pour toujours, hein, Randy Orton. Et donc ce soir, il vient défier Roman Reigns. 18 mois qu'il a été mis sur la touche.
Mois,
pardon.
Oui. 18 ans. Mais en même temps, il a parlé de 18 ans qu'il était là. Oui, voilà,
ça fait 18 ans qu'il est là, mais ça fait 18 mois qu'il n'était pas là. Alors, ça fait 18 jours qu'il est revenu. Il est très fort sur Randy Orton. Voilà, je ne sais pas s'il a que ce chiffre 18, mais visiblement, il a dû se passer quelque chose qu'il avait 18 ans, peut-être, je ne sais pas. Il va falloir creuser et appeler le biographe officiel de la Vipère. Alors, 18 mois, Randy Orton, il est de retour et ça commencera avec le Royal Rumble, puisqu'il défie tout simplement Roman Reigns pour le titre Undisputed. Génial, c'est assez incroyable. On va avoir un sacré match au Royal Rumble. Roman Reigns qui dit, bah attends, t'as attendu 18 mois pour venir chercher tout ça, mais moi pendant ce temps-là, moi j'ai pas du tout pensé à toi. Il dit, t'as pensé à moi, moi je pensais pas du tout à toi. C'est terminé, hein, on est en 2023, là, on n'est plus en 2017. Roman Reigns, c'est le top du top. Toi, Randy Orton, avec toutes tes voix qui te disent qu'il te devrait quitter le ring, et ben peut-être que tu devrais justement quitter le ring, ne pas manquer, voilà, pas me manquer de respect. Et puis, bah, gare à toi, Randy, hein, parce que si on croise le fer entre les cordes, c'est pas 18 mois que tu vas disparaître, c'est tout simplement la retraite qui t'attend. Eh oui, l'EHPAD pour la vipère. Randy Orton dit, bah, peut-être, bien que oui, c'est vrai, mais t'as évolué. Voilà, t'es une légende, t'es un gros champion, et déjà, le fameux, hein, c'est vrai, hein, Roman Reigns, on le sait à quel choc, on le sait depuis le début, dès qu'il est apparu sur nos écrans, s'il dit celui-là, c'est un futur le fameux, mais Roman Reigns se considère étant comme une légende. Randy Orton nous rappelle qu'il est tout simplement le Legend Killer. Géliel, on se souvient, hein, ce gimmick.
Ah oui,
propulsé. Oui. Randy Orton tout en haut de la chaîne alimentaire. Le RKO qui est tenté, mais ça ne passe pas. Et la petite dernière provocation à Roman Reigns, il lui dit simplement que Daddy is back. Daddy is back, Géliel is back, tout le monde est de retour.
Oui, tout le monde est de retour et ça repart sur de très 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 bonnes bases. Il y a plein de choses encore qui sont dedans. On voit effectivement Roman Reigns qui se repositionne comme le chef de la tribu. Il y a pas à tortiller. C'est lui qui va adouber alors un peu contre, on va pas dire contre le cours du jeu, mais quand même avec quand même une grosse attente qui était là de la part de Jimmy Uso qui était là. Et finalement, il va décider de mettre en avant Solo Sikoa. Donc avec, on voit la frustration qui se lit sur le visage de Jimmy, qui quand même se dit après tout ce qu'il a fait, je pense qu'il pouvait être légitime ou au moins penser le mériter ce titre-là. Surtout que souvenons-nous, il y a quelques mois, quand même, Roman Reigns avait justement parlé des frangins et de Jimmy justement pour lui succéder, ou enfin il avait laissé entendre que ça ce serait légitime et que ce serait l'histoire que ça se passe ainsi. Et puis derrière, Randy Orton qui arrive, très en forme, comme tu l'as dit, depuis son retour, et puis qui vient directement se positionner contre Roman Reigns. J'ai bien aimé la partie, la petite joute verbale qui a eu lieu entre les deux, là, avec l'un qui le renvoie à ses exploits passés, évidemment, donc proche de la retraite, et puis l'allusion à la légende qui, pour dire que bah, voilà, ça tombe bien, puisqu'en face de toi, tu as The Legend Killer, et que donc bah, ça tombe bien que tu sois devenu légende, puisque bah, voilà, ça, tu vas rentrer directement dans mon menu. Voilà, donc non, vraiment super intro, hyper qualitative avec plein de choses encore. Et puis surtout, bien content de revoir Roman Reigns, parce que comme tu l'as aussi dit, ça faisait un petit moment qu'il ne se passait pas grand-chose. Et quand on sait l'importance qu'il a dans cette faction-là, c'est aussi pour ça qu'on a senti un mou dans cette bloodline, parce que bah voilà, sans la présence du chef tribal, sans les présences chaque semaine, alors même si il y a eu des rythmes très élevés, son absence complète fait que ça pose souci pour la visibilité et puis pour les histoires qui sont racontées. Donc très content de ce segment d'ouverture en tout cas.
Ouais, effectivement, là c'est une bonne façon là de démarrer le show. On va retrouver tout ce beau monde en main event. Je vous expliquerai pourquoi. Je garderai toutes les petites interventions backstage qu'il y a eu tout le long de l'épisode et qui ont donc donné le main event, donc un match, le match qui aura lieu donc à la fin de SmackDown. Mais pendant ce temps-là, on va aller direction un petit peu la mid-card, Géliel, si tu veux bien, puisqu'on a un tournoi. Hein, je ne sais pas si tu as rattrapé ça, si tu es au courant, mais il y a un tournoi. Il y a un tournoi pour être challenger au titre des États-Unis. Et ouais, donc je vais vous donner tout simplement les résultats. On a eu donc Carmelo Hayes qui vient donc de NXT. Hein, c'était la petite surprise, Géliel. Ils avaient annoncé l'arrivée d'une superstar de NXT et qui a affronté donc Grayson Waller, et c'est Carmelo Hayes qui donc remporte ce match avec donc un code breaker qu'il a placé et son finish pour l'emporter. Donc bah pas facile hein, pour Grayson Waller et Austin Theory en ce moment. Les deux se sont bien trouvés, mais derrière il y a pas beaucoup de victoires, et puis Carmelo
Hayes ça voilà, concrétise c'est la grosse, pas
Ouais, ça ne concrétise pas trop pour l'instant. Donc, on reste un petit peu bloqué dans la mid-card. On met en avant des montées d'NXT. Hein, voilà, Carmelo Hayes, ancien champion NXT. Donc, voilà, un mec bien, bien chaud qui va probablement profiter de ce tournoi pour débarquer dans le main roster d'ici, enfin, non, pas très longtemps, même s'il a encore quelques histoires à régler dans le show jaune et noir. Et de l'autre côté, Géliel, il y a eu donc le fameux Kevin Owens versus Austin Theory, et là bing boum badaboum, et ben c'est le même tarif que pour Grayson Waller, puisqu'il va se faire coucher par Kevin Owens. Alors Kevin Owens qui est mal en point moi en point pardon, qui se fait attaquer au niveau de l'avant-bras là, qui se fait torturer par Austin Theory, mais ça ne va pas suffire. Le Canadien qui a remporté donc ce match et qui ira affronter justement Carmelo Hayes. Qu'est-ce que tu penses de ce petit tournoi là qu'ils ont mis en place pour aller chercher Logan Paul?
Moi je trouve ça très bien, parce que ça fait des petites histoires qui ont. Ça fait des histoires tout seul. Les tournois, ça fait, il y a pas grand chose. Enfin, ça se raconte tout seul. Il y a pas forcément des masses de choses à écrire. ça fait des affrontements, ça permet quand même aussi de repositionner, vu qu'on a des matchs à enjeu, ça permet aussi de repositionner les différents acteurs dans une carte globale, de montrer également que Grayson Waller et Austin Theory sont un peu dans le dur en ce moment, que même sur des petits tournois comme ça ou des choses qui sont un peu plus petites que les habituelles courses au titre, ils n'y arrivent pas pour le moment. Et donc, je trouve ça très bien. Et puis, ça fait des matchs. Ça fait des matchs relativement sympas. J'ai bien aimé l'approche de Kevin Owens, de Austin Theory, d'aller attaquer évidemment la main de Kevin Owens, mais sans succès.
Donc, Kevin Owens qui avait effectivement une attelle et qui lui a permis d'ailleurs de remporter le match, parce qu'un coup de poing avec une attelle, ça fait mal quand même.
Tout à fait. Donc j'apprécie, tout va bien.
Ouais, on a un bon petit tournoi qui permet de pallier un petit peu, on va dire, à la présence aléatoire de notre champion des États-Unis et qui nous permet effectivement de continuer de tricoter des petites histoires comme ça en mid-card. Alors forcément, dans un tournoi, à la fin, il n'y en a qu'un qui gagne. Donc même avec tous les petits chouchous, il faut forcément qu'ils finissent par tomber. Mais voilà, ça continue de raconter des petites histoires dans la mid-card. Et donc, on est pas trop mal à ce niveau-là. Charles Flair est blessé, malheureusement. La breaking news est tombée, mon pauvre Géliel, suite à son match face à Asuka. Et donc, elle sera absente 9 mois. C'est 9 mois à cause de la blessure. Malheureusement pour Charlotte Flair. Donc, tous les plans pour WrestleMania tombent à l'eau. Génial. Pas trop triste? Un peu?
Non.
Il était en train de pleurer dans un coin.
Je me remets. Je renifle mon nez. Non, mais c'est beaucoup. En fait, voilà. Moi, j'ai été un peu interpellé par le fait que 9 mois, ça me paraissait quand même pas mal.
Ouais, c'est beaucoup, c'est une sacrée blessure au genou, visiblement.
Ouais, parce qu'on n'en sait pas beaucoup plus. Et du coup, moi, à l'heure où. Alors, peut-être qu'en ayant consulté, peut-être les dirt sheets et autres informations.
Les rapports médicaux.
Exactement, avant les légistes. Mais en tout cas, ça me paraît beaucoup. Donc, alors, la carte, la division féminine n'était pas forcément en gros feu de particulière. Il y avait des choses qui étaient en train de se construire plutôt qu'en train de se payer, comme on dit. Donc elle sort des histoires pendant un bon moment, quoi. Donc ça me paraît beaucoup. Voilà, je suis un peu déçu pour la durée de la blessure.
Ouais, effectivement, absence très prolongée pour la fille de Ric Flair, Charlotte, donc qui ne sera pas là à WrestleMania. En coulisses, on a Bailey et tout va mieux. Tout va pour le mieux dans Damage Control, puisqu'une des conséquences, à mon avis, mon bon Géliel, si tu veux savoir, faut pas être le cerveau de l'année, mais quand on a l'annonce de Charlotte Flair qui est absente 9 mois et que derrière on a eu cette petite séquence backstage de Bailey qui a l'air de s'être rabibochée avec toute la faction comme si de rien n'était de Damage Control, c'est que visiblement les plans vont être un petit peu chamboulés pour cette route vers WrestleMania. Bailey a créé Damage Control. Elles sont proches de leur objectif. Io Sky est la championne. On a aussi là, on déterre les Kabuki Warriors avec Asuka et Kairi Sen. Voilà, on rebalance cette équipe qu'on a connue il y a quelques années avant le départ de Kairi Sen. Et puis Dakota Kai qui est là également pour dire qu'elles vont tout simplement mettre la main sur toute la division avec le Royal Rumble auquel va participer Bailey. Et Bailey envoie tout simplement déjà un message à Rhea Ripley. Je vais rapidement parler du match qui a suivi, mais on parlera un petit peu de Damage Control parce que là, mine de rien, c'est un peu le bordel Damage Control. Mais là, c'est encore plus le bordel parce que ça part complètement dans d'autres directions. On a eu donc les Kabuki Warriors qui ont fait officiellement leur grand retour et qui affrontaient Zelina Vega et Maya Yim qui les ont attaqués carrément sous le titan, sur la rampe d'accès. Ça, c'est pas très babyface, non mais dis donc. Un match qui va être remporté heureusement par les Kabuki Warriors avec donc le gros Insane Elbow, donc cette grosse descente du coude de notre pirate préféré Kairi Sen avec la petite aide de Bailey pendant le match et de Dakota Kai qui a distrait l'arbitre pour laisser la leaduse du clan se débarrasser de Michin. Et puis donc, écoute, les Damage Control, c'est reparti quoi, tout simplement. Tout va bien. Et puis on vise Rhea Ripley, donc on vise le top quoi.
Et on vise le très très haut, exactement. Oui, bah écoute, la faction se reconstitue, se remonte, s'intègre bien avec, avec Asuka, avec Kairi Sane, tout ça. Il y a une espèce de collectif, on va dire, qui se construit bien. Il y a Bayley qui annonce très clairement ses intentions également contre Rhea Ripley. Alors, il y a quand même d'autres choses aussi qui sont en cours contre Rhea Ripley, donc il faudra voir un peu comment ça tout ça se met en place. Mais non, mais c'était agréable. Et puis moi, je suis très 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 content de revoir Kairi Sane, très clairement. Donc voilà, je trouve que cette présentation et ce match des Kabuki Warriors m'a beaucoup plu, en tout cas. Voilà, j'aime beaucoup l'association Asuka Kairi Sane. Et voilà, donc Zelina Vega et Mia Yim qui venaient faire un peu l'opposition. Bon, enfin, c'était un peu compliqué dès le début. Hein. On a bien vu que c'était compliqué, même si elles ont essayé d'anticiper le gong de la cloche. Non, moi, finalement, ça m'a continué à me hyper pour la suite des dommages contrôles sur le sujet, puis pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, je suis très très content. Puis ouais. Je le redis, mais Kairi Sane, très fan, donc très content de la revoir aussi in ring.
Eh ben voilà, vous voyez. Quand Giscard n'est pas là, c'est une toute autre ambiance. On respecte la division féminine, nous. Hein, on n'est pas là comme
oui,
ça.
Oui, ça me paraît le minimum, hein, mais après...
ça me paraît le minimum. En tout cas, voilà. Clairement, là, c'est presque un reset, hein, Géliel, par rapport un petit peu à tout ce qu'est le marasme dans lequel on était. Tout va bien. Damage Control. On reconnaît à nouveau Bayley comme le leader incontesté de la faction. C'est du gros n'importe quoi. Hein. Honnêtement, il faut vraiment dire bon, bah, ok, de toute façon, accepter que de toute
suspension
façon.
Suspension d'incrédulité. Hein. On ouais, est
c'est
d'accord.
Ça. Au max. Hein.
Okay. Là, les potes au max, on est d'accord. On est d'accord.
Parce que là, voilà, on sent. Enfin, voilà, Charlotte Flair n'est pas là. C'était le bordel. Voilà, on ne savait plus trop. Je pense que les bookers, les scénaristes ne savaient plus trop quoi, où ils allaient. Et je pense qu'ils ont tout simplement dit bon, bah, écoutez, vu que Charlotte n'est pas là, on va faire comme si de rien n'était. Et puis, on va reprendre notre dernier sauvegarde. Ils ont leur petite sauvegarde. Ils sont dans un jeu vidéo. On va reprendre là. Les jeux où tu dois faire des choix. Bah, non, finalement, je vais tenter un autre chemin. Et c'est un peu l'impression que donne Damage Control. Mais écoute, ça a le mérite d'être intéressant à observer.
Oui, intéressant, on verra sur la durée. En tout cas, ça a le mérite d'être assumé, voilà, au moins.
Oui.
Ils partent à fond là-dessus, ils ne sont pas sur une espèce de truc en demi. Ils ont refilé les clés du camion à Damage Control.
Ça faisait 9 mois qu'ils étaient sur un truc en demi, là, donc c'est bon.
Mais non, mais c'est ça. Et puis, si ça doit être mauvais, ce sera mauvais. On sera bien évidemment là pour le noter. Voilà. C'est assumé.
C'est assumé. On a une petite séquence, j'ai oublié de le parler, de Kevin Owens qui a croisé Cameron Grimes et puis surtout derrière Carmelo Hayes. Et puis, les deux hommes donc, se sont toisés pour donc, leur demi-finale qui aura lieu la semaine prochaine. Il va y avoir du beau monde à la fin de ce tournoi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez me dire, bon, Boyerem, pendant cet épisode qui a mené à ce match entre Randy Orton et Jimmy Uso. Et c'est pas mal de petites séquences backstage. On a eu notamment Randy Orton qui a croisé le chemin de LA Knight. Hein, les deux hommes, voilà, c'est un peu les deux top babyface à la WWE côté chaud bleu. Voilà, ils se sont aidés la semaine dernière. Enfin, LA Knight avait aidé Randy Orton. Ils se sont croisés, ils ont eu leur match. Mais voilà, les deux hommes ont l'air d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de place pour deux gars comme ça en même temps sur l'écran. Et donc, voilà, ça se défie. Voilà, combat de coq.
Un seul shérif en ville.
Ouais, ouais. Et LA Knight qui dit que c'est lui qui va se débarrasser de la Bloodline et de Roman Reigns. Donc, on a nos top babyface qui ne lâchent pas. Roman Reigns, justement, il était en coulisses. Il n'était pas content parce que Randy Orton a tout simplement ruiné cet adoubement de solo Sikoa. Quelqu'un doit faire taire la vipère une bonne fois pour toutes. Et donc, Jimmy dit, bah, écoute, moi, je le ferais bien, mais ce serait pas plutôt le rôle de l'héritier tribal. C'est des petits... Alors, Roman Reigns, il dit, attends, tu sais quoi, c'est justement c'est le moment des promotions, là, on arrive en fin d'année. Allez, tiens, petite promotion. Imagine ce qui se passe si jamais tu barres Randy Orton. Et là, on a Jimmy Uso qui commence à se connecter, hein, tous les neurones qui se connectent. Et puis, il répond dans un hit, ce qui, évidemment, hérisse le poil de Roman Reigns, qui ne supporte pas cette expression, qui lui rappelle, évidemment, l'autre frangin terrible des Uso. Donc ça, c'était sympa, cette petite séquence backstage. Derrière, il y a Jimmy aussi très intéressant. Il s'est passé plein de choses très intéressantes. Et surtout, j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Ça passe, mon bon GDL, ça nous rappelle justement les grandes heures de la Bloodline où il y a Jimmy et Solo. Et Jimmy était un peu inquiet. GDL. Tout simplement, Jimmy disait à Solo, mais écoute, si jamais, voilà, il devait se passer quelque chose devait m'arriver. S'il devait m'arriver quelque chose, enfin, tu ferais quoi? Et l'autre, et Solo, il... Donc, sous-entendu, si grosso modo, Roman Reigns venait à se retourner contre Jimmy, hein, Solo lui dit, écoute, t'es mon frère. Voilà, on en rappelle au lien sacré du sang, tout simplement. Mm. J'ai tenté de dire, attention, la dernière fois qu'il a dû choisir, Solo, il a quand même choisi le chef tribal. Hein.
Je me méfierais à la place de Jimmy, quand même.
Donc bon, je ne sais pas s'il faut trop accorder d'importance. Et puis, il y a eu le match. Il y a eu le match. Randy Orton versus, justement, Jimmy Uso, un match qui a été remporté évidemment par Randy Orton, épaulé par LA Knight, qui est venu le sauver de Solo Sikoa après le match, qui était venu venir embêter notre ami de la Vipère, notre Legend Killer, hein, tout simplement, et Jimmy Uso qui se prend un RKO pour le tomber. Victoire de la Vipère. LA Knight, Randy Orton célèbre cette victoire. Ils se font attaquer par Roman Reigns, c'est le gros bordel. Jimmy est là, LA Knight est là. Solo Sikoa se jette dans la bagarre. Toute la Bloodline qui arrive à prendre le dessus sur les deux top babyface jusqu'à ce que la musique d'un autre revenant, hein, il n'y a pas qu'à Ketchup qu'on a des revenants, il y a aussi à Stamford, à la WWE, et Jay Styles est là. Phenomenal forearm sur Roman Reigns. Et derrière, il attaque LA Knight avant de repartir sous le petit entron en jetant un petit regard à Roman Reigns. Ah, Juliel, tu vas me dire, mais Irène, qu'est-ce qui se passe? La Bloodline revient et tout de suite, ça repart dans tous les sens.
Mais Irène, qu'est-ce qui se passe?
Vous voyez, c'est
non,
ça.
Mais bah, non, c'est ça, c'est du ping-pong, ça marche bien. Non, mais tu as raison, il suffit que, effectivement, les enjeux, en fait, c'est tout simplement ça qui dicte le tout. Dès que les enjeux avec la présence de Roman Reigns, de ses titres, puis de des attaques, mais le fait d'aller chercher ses titres, ça crée de l'enjeu, ouais. Ça crée tout de suite des impacts au niveau des différents acteurs, que ce soit Solo, que ce soit Jimmy. Et puis, avec les histoires qui sont en cours, et notamment avec le retour de Randy, bah voilà, tout se met en place, quoi. Donc, le match était très sympa. Évidemment, Randy Orton bat Jimmy Uso. On voyait bien qu'il y avait quand même des kings qui devaient arriver. C'est bien arrivé comme il fallait. On voit comme d'habitude ce surnombre de la Bloodline qui allait une fois de plus l'emporter, mais non, effectivement, nouveau retour, le retour des Jay Styles. Et puis là on a un petit une petite piste un peu différente, puisqu'on avait quand même clairement, et le petit segment coulisses d'avant l'avait dit, hein, où on pouvait imaginer, au-delà de Randy Orton versus Reign ou LA Knight versus Reign, il y avait peut-être une rivalité de banon. AJ Styles revient et puis s'en prend directement à AJ Styles, donc ça le sort un peu de la grande confrontation vers Roman Reigns et Randy Orton. Ça laisse de la place pour Randy Orton et Roman Reigns par ailleurs, et puis pourquoi pas s'orienter vers un AJ Styles et LA Knight. À voir maintenant, LA Knight est très 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 over. AJ Styles a eu quelques attitudes très 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 heel, donc bon, le positionnement et l'écriture va se faire assez simplement. Moi, ça me dit bien, ça peut être pas mal que, comme on l'avait dit avec Cody, qui avait eu après sa blessure, avait dû passer par un certain nombre d'étapes avant de pouvoir réaccéder ou de remonter et d'être à nouveau éligible au tout haut. Voilà que LA Knight, qui est également over, et on sait que voilà, ça durera peut-être pas forcément et qu'il aura pas non plus encore 250 runs dans sa vie de catcher, qui passe par des étapes un peu des démarches à passer une par une avant peut-être d'aller beaucoup plus haut. Je trouve ça très bien, et que AJ Styles est l'adversaire parfait à ce niveau de sa carrière, et pour lui et pour LA Knight. Donc j'ai été vraiment très très surpris et en même temps hyper content, en fait, que Chistel s'en prenne à LA Knight. On saura pourquoi peut-être un peu plus tard, puisque là, il n'y a pas eu d'explication particulière. Et puis, du coup, ça ouvre la porte. On a un Orton Reigns de toute beauté, même si il avait déjà été teasé lors du segment d'introduction. Donc, très content.
Ouais, effectivement. Alors, moi, ça m'a fait à la fois plaisir de trouver, de voir AJ Styles. Également, bon, il attaque LA Knight, donc un petit twist, c'est sympa. Que va-t-il se passer derrière? Parce que ça aurait été pas mal aussi. Hein. On se souvient qu'AJ Styles n'a jamais vraiment réglé ses comptes avec la Bloodline. Ils ont toujours sciemment évité, justement, d'aller trop se frotter à la Bloodline qu'il était avec ses poteaux du club, hein, les Good Brothers notamment. Ça aurait pu être sympa aussi de se retrouver avec un petit Fatal 4-Way, hein, pourquoi pas, tous ces top babyface qui en ont après Roman Reigns. Est-ce qu'on va y aller vers une formule comme ça, un peu à 4, où bah, on a finalement deux top babyface, plus un top babyface qui agit mal, et puis le grand chef tribal qui est là. Ça pourrait donner aussi une bonne recette, là, de se retrouver avec un Fatal 4-Way qui mettrait bah, le chef tribal un petit peu en danger, finalement. En le disant comme sa voix haute, Roman Reigns ne s'est jamais retrouvé dans cette situation des triple free, des fatal four way. Il s'est toujours trouvé en 1v1 et ça pourrait permettre de renouveler avec une configuration originale, tu vois, un match avec Roman Reigns où finalement il peut perdre bah, sans prendre le tombé. Hein. On sait que c'est toujours ça que les et ils détestent quand ils se retrouvent dans cette configuration là. Ça pourrait être sympa. Là, je suis en train de me rendre compte en direct. C'est incroyable.
Je suis d'accord avec toi, mais j'ai plus de mal à y croire qu'à partir sur la version, alors peut-être un peu plus simpliste, je suis d'accord avec toi, de ce qu'ils nous ont montré, quoi, tu vois.
Ah oui. Oui. Non, mais de toute façon, on va à Orton versus Roman Reigns, on ira droit au Royal Rumble, ça, il n'y a pas de souci. Et puis derrière... Derrière, bah, il ne reste plus grand-chose, à part la chambre d'élimination. Après, c'est WrestleMania. Donc, les configurations, les OVP, et puis voilà, le peu de temps de présence de Roman Reigns, booker un Fatal 4-Way, ce serait une sacrée, surprise, évidemment.
Ouais.
Mais,
un peu
voilà,
précipité, quoi.
Oui, bien sûr. Mais j'aimerais, toi, là, on y pense, on est en 2024, je ne sais pas ce qui attend Roman Reigns. Je ne sais pas si Roman Reigns sera toujours là après WrestleMania, mais je me dis que finalement, on n'a pas eu encore. On s'est jamais retrouvé avec ce genre de configuration où Roman Reigns se retrouve dans un match à triple menace ou un Fatal 4-Way, et j'aimerais voir ça. J'aimerais voir ça pour voir
voilà,
rendre quelque chose d'un peu original. Allez, c'est comme ça que se termine le show bleu, mon bon Géliel. On va rapidement distribuer un petit les bons points, les mauvais points, et puis la note. Voilà, pour ce show bleu que tu as vécu un peu en avance rapide et qu'on va sanctionner ce soir. Top flop, quelle était pour toi la bonne idée et la mauvaise idée? Et quelle note tu donnerais à cet épisode du show bleu?
Alors, la bonne idée, c'est vraiment le retour de la Bloodline qui revient avec le retour de Roman Reigns. Ouais. Voilà, très clairement. Et je vais faire un combo parce que en fait, il y a une espèce de Roman Reigns dépendance à la Bloodline dans sa globalité, malgré Solo Sikoa, malgré les frères et les frangins Uso. Et du coup, ce sera aussi mon flop. C'est-à-dire que le fait Roman Reigns revienne, relance la Bloodline et effectivement, ça rend à nouveau le truc extrêmement intéressant et on a envie de connaître la suite. Et dans le même temps, avec un élément qui manque et pas le moindre évidemment, et ben tout ça perd énormément de saveur. Alors on avait on l'avait quand même noté de la présence incroyable de ce qui était devenu Roman Reigns, mais cette dépendance, elle est vraiment maintenant très clairement affichée. On aura sans doute l'occasion lors des Catch Up Awards de revenir dessus, mais voilà, donc c'est à la fois mon top et à la fois mon flop. Et pour ma note, ça a été un bon épisode, très clairement. J'ai été très content de revoir Kairi Sane, comme je le disais. Pas mal de petites histoires qui se sont passées en coulisses, comme tu l'as dit aussi, avec des petites informations distillées, des petites choses comme ça. Donc, c'est toujours très intéressant. Les deux matchs pour le tournoi étaient sympas aussi. Donc, je vais mettre un 3-5 à cet épisode. Voilà.
Ouais, bah écoute, ça me paraît pas mal. Effectivement, pour mon flop, pas vraiment de gros flop. C'était j'ai trouvé effectivement un épisode très concentré qui s'est pas perdu,
dispersé.
Qui s'est pas dispersé. Merci. Mon flop, bah, je vais donner à cette blessure de Charlotte Flair. Allez, c'est pas cool. Quand même, 9 mois, c'est que ça doit être un sacré truc. Pourtant, hein, je suis le premier hater, on va dire, de Charlotte Flair, même si les mots sont forts. Hein.
Oui,
je
oui.
Pas comme un hater, mais voilà, je suis clairement pas le fan numéro 1 de Charlotte Flair, mais une grosse blessure comme ça de 9 mois, c'est pas cool. Et puis du coup, bah, mon top, je vais le donner bien à cette promo, cet opener de Randy Orton face à Roman Reigns, qui a remis tout simplement, voilà, comme j'ai dit, l'église au milieu du village, on a les patrons qui sont là, et globalement, c'est quand même une sacrée affiche. Je suis content qu'on retrouve Randy Orton, justement. Pour faire un peu effet miroir avec la blessure de Charlotte Flair, on est content que nos catcheurs et nos catcheuses préférés, ou même ceux qu'on n'aime pas, reviennent. Hein, parce que, mine de rien, être sur la touche comme ça, 18 mois, voilà, le catch est quand même assez... c'est quand même n'importe quoi, hein, ce qu'ils font. On est d'accord, faut être fou, faut être complètement dingue pour se dire, tiens, si j'étais catcheur. Donc, bon, top, voilà, c'est le retour de Randy Orton et cette belle promo en opener. Ma note, 3,5, c'est très bien. Moi aussi, je trouve qu'effectivement, j'ai trouvé vraiment que c'est un épisode concentré sur tout ce qui était important, le tournoi, même les damage control. C'est du grand n'importe quoi, façon damage control, il faut l'accepter. Mais là, je trouve, voilà, on a repris la bonne sauvegarde, tu sais, on a relancé la bonne partie. Donc,
c'est ça. Et ils ont bien fait de revenir un peu en arrière, voilà, hein, c'est pas si grave que ça, finalement, leur pardonne, et de partir dans une autre direction à fond, et c'est très bien aussi d'assumer comme ça.
Allez, si on allait directement le show rouge, hein, parce que là, il s'est passé des choses, oh là là, c'est Monday Nitro, c'est la saison des holiday season, donc voilà, on arrive à Noël, donc vous allez bouffer du cadeau, vous allez bouffer du sapin, vous allez bouffer du Père Noël, nous étions à Des Moines, dans l'Iowa. Et c'est pas n'importe quelle ville, vous le verrez. Tout simplement, le chou rouge qui démarre avec le Judgment Day et Géliel. C'est incroyable, mais je suis en train de regarder mon calendrier. C'est le 400e épisode de Monday Night Raw que Catch-Up analyse. C'est assez incroyable. Ça fait 400 semaines qu'on vous analyse et on vous résume tous les shows de la WWE. On avait commencé par... analyser simplement le show rouge, puis rapidement le show bleu, mais voilà, c'est la 400e analyse du flagship, hein, de la WWE. Incroyable.
Incroyable, effectivement. Bah, et... bravo, hein, bravo au Catch-Up, hein, bravo à tous. C'est un milestone parce que c'est pour être tombé le nombre de jours, etc. Alors, donc, ça avait évidemment 400 semaines, donc 8 ans, hein, c'est à peu près ça.
Ouais, ça fait 8
ans. C'est assez incroyable.
Donc ça tombe bien, ça tombe à un épisode spécial Noël. Donc c'est un cadeau qui arrive sous la forme du Judgment Day. Voilà. Ouais, mais Judgment Day, nous on aime bien le Judgment Day. Damien Priest nous souhaite la bienvenue. Voilà, on a placé un petit mot sur les Creed Brothers, hein, qui sont les first contenders. Ça va être la plus grosse soirée de leur vie, hein, pour ces jeunes, mais ça va être tout simplement juste une soirée normale au bureau pour le Judgment Day, qui compte bien se débarrasser facilement. Deux, et tout simplement, il faut les croire. Ils sont quand même 2-time Undisputed Tag Team Champions. Rhea Ripley, elle, ce soir, à la fronte Ivan Hill. Elle va lui faire subir le même sort qu'à Maxime Dupri. Judgment Day qui a dominé toute l'année. Et Dominique qui se fait huer. Et la musique de R-Truth qui retentit parce que Géliel, voilà, il s'est passé des choses pendant tant d'absence dans les studios. C'est que R-Truth a rejoint, ou tente de rejoindre en tout cas, la faction la plus chaude de la WWE. D'ailleurs, il le dit, hein, vous m'avez oublié, les gars. Moi, j'aime bien ouvrir le show aussi. J'aime bien faire les openers. Regardez, what's up. Alors, JD McDonagh, qui en peut plus, hein, de Hot Show, lui dit, mais dégage, la raclée là, que t'as subi. L'autre, il dit, bah oui, d'ailleurs, c'était mon initiation, j'ai compris, hein, c'était mon bizutage. Bon, je veux pas trop me plaindre, mais bon, c'était pas cool quand même. J'ai eu mal physiquement et puis dans mes émotions les plus fortes. Ça me fait, j'adore, parce que on retrouve vraiment ce qu'on retrouve aussi avec le Judgment Day avec Sami Zayn, c'est que les mecs ils se peuvent, enfin Damien Priest il est mort de rire dès qu'il voit R-Truth, en fait il ne peut pas s'empêcher,
ouais,
ils ont un sourire qui fait trois fois le tour de la tête. Il dit, écoute, voilà, il dit à Damien Priest, pardon, R-Truth, voilà, je sais que tu as dit que tu pensais pas, hein, que tu m'as dit que tu m'aimais pas, j'ai vu dans tes yeux. Et puis voilà, ça se chauffe, ça se menace, tout le monde cherche la bagarre. Écoute, Chouf, il va tout simplement proposer un match face à JD dans un Miracle on 34th Street Fight match. Miracle sur la 34e rue ou avenue, je ne sais plus comment il traduit ça en français.
Avenue.
Ouais, c'est un peu bizarre parce que c'est rue en fait normalement.
Ouais,
à New York, je crois pas qu'il y a 34e avenue, mais il me semble qu'en français le titre effectivement ils ont mis avenue. Mais en tout cas, c'est une stipulation à base de cadeaux et de sapins de Noël qui est donc lancée auprès de JD. Tout simplement derrière, il y a une grosse stipulation puisque le perdant devra quitter le Judgment Day. C'est R-Truth qui propose ça. Et j'ai dit, mais tu fais même pas partie du jugement et ça fait marrer Damien Priest qui va accepter ce match ce soir, tout simplement, je pense, pour se divertir. Il a besoin d'être diverti, notre ami Damien Priest. Rapidement, le match, avant qu'on parle de tout ce gros opener et puis du jugement day, tu vas nous en parler là, de ce R-Truth qui tente de rejoindre le jugement day. Eh bien, ça m'a surpris, mais écoute, c'est R-Truth qui a remporté le match en passant McDonagh à travers la table pour la victoire. R-Truth, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans un gros match là, comme ça. C'était un match assez long qui a été assez fun avec des sapins de Noël, des sucres d'orge, et tout un bordel, je ne me souviens plus, mais il y avait tout le folklore des fêtes de fin d'année, oui, petit coup d'extincteur, voilà. Et puis derrière, donc McDonagh qui se retrouve couché par R-Truth. Incroyable à ce jugement day, toujours les patrons demandaient Nitro. Mais avec une petite victoire de R-Truth.
Je comprends que R-Truth continue à être présent dans ces moments-là. Il apporte une espèce de bonne humeur, de joie qui est assez qui est plus forcément systématiquement présente et sans être non plus, enfin c'est comment dire, c'est du comédie mais pas forcément, enfin c'est pas comme certaines fois où c'est pas lourdingue en fait, puisque c'est systématiquement basé sur ce personnage qui mélange un petit peu l'incompréhension, il est naïf parfois, il est voilà, etc. Donc il est beaucoup plus dans l'autodérision intelligente, on va dire, sur la base d'un personnage que je fais n'importe quoi sans queue ni tête et sans sens. Là, effectivement, il a un objectif qui est de rentrer dans le Judgment Day. Alors, il est, c'est drôle la manière dont il approche. Il reste sur ses gimmicks, il reste aussi très bon au in-ring. Hein, faut pas, c'est assez incroyable, ça, aussi. Et puis, je te rejoins, quoi, les gars du Judgment Day, dès qu'on regarde un petit peu hors champ ou derrière, allez, tout le monde est mort de rire. Quoi. C'est quand même bien fait. Et puis, donc, on va au bout de la blague. Avec McDonagh qui se fait battre et qui prend le tombé par R-Truth, qui donc qui rejoint donc officiellement le Judgment Day. Enfin, c'est incroyable quoi. Donc voilà, vraiment très 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 bel opener. On est parti sur un peu autre chose puisque finalement c'était un combat entre Judgment Day. Hein, donc on n'était pas sur les histoires habituelles, même si on a bien vu quand même les Rhea Ripley donner le ton. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis le fait que R-Truth revienne un petit peu dans la faction majeure d'Euro, en étant légitime puisqu'il a gagné son match, j'ai trouvé ça assez génial. Je sais pas trop où ça va nous emmener, mais en tout cas, je crois qu'il y a quasiment 25-30 minutes entre le générique de début et puis le tombé derrière sur. Judgment Day plus R-Truth, et je trouve ça, en plus avec ce dénouement-là qui est parfait pour moi, j'ai trouvé ça génial comme introduction.
Ouais, où est-ce que ça va? Je suis comme toi. Je pense qu'on est en période de fête et que voilà, le WWE nous offre un petit peu humeur. Alors, on est d'accord, hein, le Judgment Day, après, il va falloir retourner au business sérieux, hein, avec l'arrivée clairement. Du Rumble qui arrive. Évidemment, il ne faut pas tomber dans la gaudriole absolue. Le Judgment Day a quand même besoin d'exister en tant que faction dominante et comme faction sans peur ni reproche et qui a vraiment la main sur le show rouge. Ils auront l'occasion de le faire dans le main event, hein, puisqu'ils vont affronter les Creed Brothers. Mais franchement, c'est vrai que là, on est en période de Noël, c'est sympa. On a R-Truth qui fait le guignol et on l'aime, on l'adore pour ça. Une qui est un peu moins fun, mais qui est peut-être plus folle, c'est Nia Jax, qui est de retour. Elle veut s'adresser à nous, mais elle a été Elle est interrompue, pardon, par Becky Lynch, ouais, qui ne veut pas la laisser parler. Nia Jax n'est pas contente, elle commence à partir. L'Irlandaise dit « Hop, hop, où tu vas ?» Qu'est-ce que tu avais quelque chose à dire, là, visiblement, donc tu peux nous dire. L'autre dit « Attends, j'aimerais bien... »
Non, je te disais...
Oui, c'est ça. J'aurais bien te péter le visage une nouvelle fois, mais j'ai d'autres affaires à gérer. J'ai mes petites affaires à moi, donc laisse-moi tranquille. En fait, allez, j'avoue, en fait, je voulais tout simplement annoncer ma présence, hein, mon inscription au Royal Rumble. Donc Nia Jax sera dans le Royal Rumble match de janvier. Becky dit, écoute, on s'en fout un petit peu, les fans s'en foutent un petit peu de toi, de cette annonce. Les gens sont venus voir The Man, et quand les gens viennent voir The Man, ils veulent voir un match. Donc pourquoi pas venir là faire le match là tout de suite ce soir? L'autre, tu dis non, pop, t'as peur de moi, je pourrais te briser en deux, tout simplement. Et derrière, dit, écoute, moi, je vais rentrer dans l'histoire, hein, comme étant The Greatest, la plus grande, et toi, comme celle qui a cassé la figure de la plus grande. Donc voilà, elle remet un petit peu la hiérarchie à jour. Nia Jax, tout simplement, sera celle qui aura perdu, hein, face à la meilleure de tous les temps. Et si tu veux le prouver le contraire, donc viens à la bagarre. Et Nia Jax, tout simplement, refuse le match pour ce soir. Géliel, elle préfère attendre le 1er janvier, puisque nous serons en Californie, à San Diego, la ville natale de Nia Jax. Évidemment, elle met encore une crasse sur sa fille en lui disant « Maman, elle dit, quand tu rentreras, ta fille te demandera pourquoi tu es encore plus moche que d'habitude. » Becky, d'ailleurs, qui a placé un petit taquet qui était sympa en disant qu'elle était là grâce à ses... Je ne sais plus pourquoi, comment elle a formulé ça, mais elle a dit qu'elle était grâce à sa famille, avec ses cousins, ou je ne sais plus quoi. Enfin, c'est toujours grâce à quelqu'un d'autre qu'elle est là. Soit Becky Lynch, soit grâce à son cousin, donc, qu'on connaît tous, hein, le Rock, évidemment. Et Nia Jax qui en profite pour... qui tourne le dos. Alors, j'ai jamais vu ça. Un méchant qui tourne le dos aux gentils pour rentrer comme ça. Et donc, Becky qui l'attaque. Et derrière, c'est la bagarre. Nia Jax qui attaque également Becky en retour avant que les officiels ne viennent tout simplement retenir tout ce beau monde. Je ne sais pas, est-ce que voilà, on nous vend ça comme effectivement une histoire avec, comme ils disent, hein, 5 years in the making. Je suis pas certain. On nous ressort quand même cette histoire-là, de la vieille histoire. C'est pas une mauvaise idée, ouais. Mais je sais, ouais, pas. Je trouve que ça, ouais, ça. Ça accroche pas trop les promos. Il y a 2-3 catchphrases qui sont bien placées, mais je trouve qu'il n'y a pas trop de synergie entre les deux filles. J'espère que ça va, qu'elles vont nous démontrer le contraire, mais pour l'instant, on n'embarque pas autant qu'on devrait, en fait.
Ouais, et moi, la question que je me pose, contrairement à peut-être ce qu'on vient de dire sur SmackDown, sur cette feud-là, c'est que moi, je pense que la promo aurait pu être extraordinaire. Je n'ai pas envie de le voir, en fait, ce truc. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. On n'apprend pas forcément grand-chose. Voilà, ça ne me dit rien. En fait, voilà, je n'ai pas envie de voir Nia Jax contre Becky Lynch. Mm. Donc, sur une promo qui où il y a eu quelques catchphrases, effectivement, sympas, on part quand même sur quand même pas grand-chose en termes de construction, hein. Moi, je suis revenu, je suis pas content. Toi, t'es revenu, je suis pas content que tu sois revenu. Enfin, ah,
ouais, c'est... Le problème, c'est que c'est Becky Lynch qui va chercher Nia Jax, quoi. Alors que Becky Lynch, Nia Jax,
elle a pas besoin, quoi.
Besoin de Nia Jax, quoi. Ouais.
Ouais. Voilà, ça, donc c'est tout ça, en fait, qu'on a ressenti. Hein. C'est le fait que le positionnement était pas top. L'envie, moi, très clairement, j'ai pas envie de voir ça, donc j'ai moins accroché. Et puis c'était moyen parce que Nia Jax attaque parce qu'elle doit attaquer, puis parce que c'est j'ai pas accroché, je me suis pas senti du tout investi, et principalement parce que j'ai pas du tout envie de voir ce truc là, quoi. Donc on va voir comment ils vont nous le vendre derrière, avec un peu plus que puisque t'es revenu, on n'est pas content, et du coup on va se taper dessus parce qu'on n'est pas content. On sait très bien que ça a été la base d'un paquet de feuds par le passé qui ont très bien fini. Peut-être qu'il y avait peut-être un peu plus de talent sur celles qui se sont bien finies, et notamment du côté de Nia Jax. C'est pour ça que je dis ça. Mais c'est trop court et trop mauvais pour le moment. Et puis déjà vu, donc je n'ai pas envie de revoir ça. Donc pour le moment, moi, ça me dit rien du tout, quoi. Donc promo moyen plus intérêt zéro. Next, on va dire.
Voilà, vous avez la réponse, effectivement. Eh bien, écoute, j'espère que le Père Noël Kofi Kingston t'a redonné du boom au cœur. Voilà, il a distribué des cadeaux, il était déguisé en Père Noël Kofi Kingston tout au long de l'épisode, ça c'était sympa. Et puis, juste derrière, on a eu une grosse promo du Miz hein, qui s'ambiance sur son match ce soir face à Gunther, un match pour le championnat intercontinental. Et ouais, rien que ça, tout simplement. Donc, grosse promo là, en interview backstage. Dire, bah, voilà, j'ai fait trembler les fondations de Gunther. Et ce soir, donc, je vais devenir 9 fois champion du monde pour rejoindre le record, comme le signalent les commentateurs de Chris Jericho. Sure. Écoute, on a eu un match complètement dingue entre le Miz et Gunther qui a rapidement porter la foule, hein. C'était assez incroyable. Ce face turn du Miz fonctionne plein gaz. Il a complètement réussi à ramener tout le monde derrière lui. C'est un sacré exercice. On sait, voilà, il y a eu des tentatives hein, de face turn du Miz. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais à chaque fois, ça fait un petit peu pchit. Là, clairement, avec Gunther, il se passe quelque chose. Ce qui en dit long à la fois sur le Miz et sur Gunther, sur le talent des deux bonhommes. Le match était complètement ouf. Hein. Je ne vais pas vous faire le tout play-by-play, mais on a eu des prises de soumission complètement dingues, des Boston Crab, des slippers, le Skull Crushing Finale qui a été placé une ou deux fois et à chaque fois, ça résistait à deux. On a eu le Skull Crushing Finale qui a été mis depuis la deuxième corde. On se dit, mais c'est pas possible, ça y est, enfin, le Miz va gagner. Eh bien non, Gunther a roulé en dehors du ring. Gunther qui a mis des énormes chops, des gros coups de pied, c'était assez costaud. Et puis derrière, il a aussi martyrisé le Miz un peu dans tous les sens. Il lui a fait des prises de soumission qui essaient visuellement, ça faisait mal au cervical. Et puis derrière, Gunther qui voulait vraiment se débarrasser de Miz une bonne fois pour toutes, il a placé une grosse power bomb, une clothesline et une autre power bomb. Et alors là, c'était terminé pour le Miz 1, 2, 3. Victoire de Gunther qui, derrière, est félicité par toute sa clique là, de soldats d'Imperium. Mais Gunther, il n'est pas content. Il part en vacances quelques semaines. Il engueule Kaiser et Vinci en leur disant, les gars, va falloir assurer là pendant mon absence parce que vous avez fait de la merde cette année. Donc, va falloir assurer. Puis derrière, ça se chauffe un peu avec le Père Noël Kofi Kingston. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Ce match, incroyable. Le Miz versus Gunther. Je pense que c'est bon. Ouais, Gunther, il peut partir en vacances, mais le Miz aussi. Hein.
Ouais, et je pense que personne n'attendait le Miz à ce niveau de performance, hein, tout simplement. Ouais. Il a été effectivement incroyable. Et puis, bah, comme tu dis, dans un positionnement qui peut être un peu particulier parce que normalement il est intouchable le Gunther depuis le début, enfin depuis qu'il a pris le titre, et pour autant on a vu qu'il est capable complètement d'embarquer tout le monde le The Miz. Gunther a été très bon, hein, bah, faut pas non plus le mérite n'en revient pas forcément pas que à The Miz qui est dans cette affaire. En tout cas, vraiment, vraiment très, 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 très sympa, très, très intéressant. L'histoire racontée est top en plus, quoi. Il n'y a absolument rien à dire, quoi. Ça se termine quand même bien, mais j'ai l'impression que ça fait pareil. Ça fait un peu feu de Noël, quoi, où on a des trucs qui sortent un peu de l'espace avec des trucs comme le Airtrouve d'un côté, la The Miz qui est repositionné très très haut, et puis en plus qui réussit son comeback face dans la bataille. Non, moi j'ai vraiment vraiment bien aimé. Il y a deux trois fois où il y a eu des petits bonds sur le canapé là, en disant ouh tiens, ça a failli, oui. On y a cru, quoi. On y a vraiment cru. Et donc voilà, je sais pas s'il va y avoir a priori, il n'y a plus de doute, il n'a plus de ticket.
Non, Miz, ouais, mais c'était une des stipulations de ce match. Hein, il pourrait plus.
Ouais, mais en tout cas, ça le repositionne vraiment bien. Oui. Ça le sort un peu de sa gimmick heel avec Maryse, etc., où je pense qu'il en avait un peu fait le tour. Et puis, et je trouve que confronté à la nouvelle génération type Logan Paul, et ben là, pour le coup, il faisait un peu son âge dans la gimmick et puis dans le physique. The Miz, et là sur un autre positionnement, bah, je l'ai trouvé tout à fait legit sur le match et sur son opposition, quoi. Donc ça veut dire que c'est aussi, enfin c'est pas là, il ne surprend pas, quoi, mais il est capable de se réinventer, de repartir sur autre chose. Ouais, c'est le signe aussi d'un super grand, quoi. Il y a pas à tortiller, même si il sera pas forcément invité dans la table des Cena et compagnie. encore que. Mais voilà, donc super match, super moment avec deux catcheurs où il y a une belle alchimie, le public qui a embarqué, tu l'as dit. Ouais, top.
Bon, par contre, pour Imperium, ça s'est mal passé la soirée. Hein. Gunther est parti en vacances. Derrière, c'est un peu plus tard, mais c'est vraiment histoire de terminer ce chapitre Imperium pour la soirée. Le Père Noël, Kofi Kingston, qui distribuait des cadeaux dans la salle. On voyait, il y avait Géliel au premier rang qui chopait les gars des cadeaux, comme ça, il volait des mains des enfants. C'était pas très sympa. Et puis, Kaiser et Vinci qui arrivent pour attaquer le Père Noël. Alors, tu ne fais pas ça. On ne touche pas au Père Noël, évidemment. Et c'est Jey Uso qui vient sauver le Père Noël. Voilà, ce qu'on disait, on est vraiment dans une période. On est la période de Noël, quoi. C'est Holiday Season, donc. Jey Uso sauveur de Père Noël. Et donc, derrière, on a un match qui est lancé et provoqué par Jey Uso qui lance un défi à Kaiser qui va remporter malgré les tentatives de Vinci d'intervenir, puisque le Père Noël revient pour sauver cette fois-ci Jey Uso. Donc c'est beau, hein, le Père Noël voilà était redevable auprès de Jey Uso, et ça se termine par un gros heat movement dans la salle, hein, voilà, le public était chaud bouillant et le public était récompensé. Voilà une autre petite sucrerie, hein, géniale à mettre sous le sapin là pour les fans de la WWE.
Exactement.
On va revenir en arrière, si tu veux bien, parce qu'il s'est passé des choses quand même pas mal. Shinsuke Nakamura qui nous raconte un petit conte de Noël, le cauchemar américain, donc le American Nightmare Before Christmas. Bon, voilà, on nous raconte une histoire sur Cody qui voulait devenir champion, mais Cody, il y a eu des mots forts, il y a eu des mots durs quand même. Il dit que Cody était un cancer, un idiot, que Dusty Rhodes vivait dans la consanguinité. C'était pas ouf, Nakamura.
Ouais.
Là, dans le genre esprit de Noël, tout d'un coup, c'est Béga Grinch, quoi. C'est le Béga Grinch, le père Quédard. Non, mais il y a comme une bascule de ouf qui est faite, quand même, entre le super bon esprit qu'il y avait dans ce rôle et tout d'un coup, ces grosses saletés, ces grosses crasses balancées par Nakamura qui n'était jamais allé aussi loin, en fait, toi.
On et puis qui n'avait jamais autant parlé anglais, je crois.
Oui, là, en plus, il parlait en anglais, mais c'était comme sous-titré. Donc,
mais quand même.
Oui, les deux. Alors, il parlait en anglais, il avait fait l'effort, mais il y avait quand même les sous-titres. Enfin, on est à la limite de la tristement célèbre promo de à l'époque de quand Roman Reigns avait son cancer et que Dean Ambrose de faire des saletés en lui disant les crasses qu'il avait, il avait refusé. Enfin, c'était le gros bordel. On était quand même très 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 limite. Là, bref, joyeux Noël. Et donc le défi est lancé auprès de Cody qui arrive et qui attaque Nakamura. Là, c'était pas enregistré tout ça, c'était en direct ce compte. Et derrière, les agents de sécurité qui viennent pour séparer les deux catcheurs. Donc voilà, on continue tranquillement avec notamment Cody Rhodes qui remerciera un petit peu plus tard les Creed Brothers de l'avoir aidé la semaine dernière. On ne savait pas trop pourquoi ils avaient aidé Cody Rhodes. Mais voilà, Cody Rhodes, on continue avec Shinsuke Nakamura. C'était le service minimum hein, là pour Cody. On va pouvoir continuer, sauf si tu as quelque chose à dire sur cette rivalité.
Non, pas.
Oui, c'était court et puis c'était pas très gentil donc de la part de Nakamura de dire des choses comme ça.
On sent qu'il était très remonté, mais bon.
Ouais. Il y a eu des changements de titre. Il y a eu un changement de titre, génial. Et pour ce changement de titre, il fallait du côté de la division tag team féminine. Je pense que c'est peut-être pour ça que Giscal n'a pas répondu à notre invitation à nous rejoindre au studio. Parce que toutes les choses que Giscal redoutait la semaine dernière sont arrivées ce soir. Puisque Kayden Carter et Katana Chance ont battu Chelsea Green et Piper Noven et sont donc nos nouvelles championnes par équipe. Incroyable avec leur finisher, le after party sur Chelsea Green qui a pris donc le tombé. Carter et Chance qui sont donc les nouvelles championnes et qui se font applaudir d'ailleurs par toute la division féminine, qui sont très contentes. Allez, grosse soirée organisée par les filles et puis derrière on a un petit peu le reste de la division qui se chauffe pour se placer en tant que first contender. Écoute. Sur le coup, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et après, je me suis dit, ah, c'est bon. C'est pourquoi? C'est très bon pour Chelsea Green, ça. De grandes choses s'annoncent pour 2024 pour Chelsea Green. On lui retire le championnat tag team. Et je pense que le Rumble va arriver et que Chelsea Green va avoir un énorme Rumble et que l'année 2024 sera l'année de Chelsea Green.
Et partir sur un run solo, c'est ça ?
Oh oui. Oh bah oui, elle a trop de talent pour être coincée dans la vision tag team où il se passe absolument rien, où son talent est malheureusement pas exploité à 100%. Et je me dis, bah voilà, on arrive au Rumble, on va la faire briller et puis on va la mettre dans un programme en solo. Puis, parce que de toute façon, il faut du monde hein, en solo. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, Gélial. Sauf si toi, tu veux te proposer, mais il n'y a plus personne. Hein.
Non, j'ai d'autres choses par ailleurs. Je ne peux pas en parler tout de suite. Ouais, je partage. Je ne suis pas si convaincu que ça. Non, pas si optimiste que ça.
Ah, mince.
Ok, Chelsea Green, pourquoi pas. Mais il y avait peut-être moyen. Si l'histoire est celle-ci, pourquoi. Enfin, il y avait peut-être moyen de trouver quelqu'un d'autre personne que Kayden Carten et Katana Chance, quoi, franchement. Parce que franchement,
oui.
Moi, ça ne m'envoie pas grand-chose. Hein, ça, et surtout pas du rêve. Hein. Donc, ça manque de tout. Et surtout de crédibilité, finalement. Donc, il y avait peut-être moyen de faire ça, peut-être moyen de faire un split, je suis d'accord avec toi, peut-être moyen de faire un run pour Chelsea Green sur 2024, pourquoi pas. Mais nous infliger ça...
Au moment des fêtes, ah, c'est pas cool.
Ouais, avec les enfants, l'esprit de Noël, merde, je vais te dire quand même. Donc, non, vraiment pas... Je pense qu'il y avait moyen de le faire autrement, pour être clair. Ouais.
Non, mais on est d'accord que c'est du vol, ce titre-là. Enfin, les deux, elles n'ont rien fait pour mériter ce titre. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter ce titre ? C'est une bonne question qui pourrait être posée. Mais quand tu vois derrière tout le reste qu'il y a, de filles qui sont inutilisées et qui ont du talent, c'est vrai que c'est un petit peu... C'est un peu frustrant, quoi.
Ah bah, carrément. Surtout que là, à moins qu'on leur enlève la semaine prochaine, pourquoi pas.
C'est ce que je me suis dit, tu vas voir, ça va pas durer très longtemps leur règne. Moi, je prends les paris qu'avant le Rumble, elles le perdent, ou au pire au Rumble.
Ouais, mais ce sera trop long, quoi. Mais bon, voilà. Je pense qu'il y avait moyen de faire autrement si c'est ça. Et alors, si c'est pas ça, mon Dieu. Si c'est pas pour le split avec Piper Niven et que
j'y crois, moi. C'est ma petite prière, tu sais, pour la nouvelle année, là.
C'est ça.
S'il y a un 2 du catch existe.
Et qu'il est pas loin du Père Noël.
Voilà. Bah oui, tout ça, c'est
un cadeau.
Tout ça, c'est les esprits qui se rencontrent. Ça, les grands esprits qui se rencontrent, ils sont là-haut, le Père Noël et le dieu du catch. Le dieu du catch, il n'était pas du côté d'Akira Tozawa, malheureusement, qui s'est fait allonger par Ivar. Ivar qui avait perdu un match face à Bronson Reed. Et ce soir, il va affronter Akira Tozawa, dont on a vu une image il n'y a pas longtemps qui est tombée sur le Discord. Il a perdu du poids, Akira Tozawa, par rapport à son début de carrière. Et c'est ça, en rejoignant l'Alpha Academy, forcément, on a la forme physique et mentale. Mais c'était pas suffisant. Hein. Gable lui a dit, mais t'es ouf ou quoi d'aller te frotter à des gros bosses comme ça à chaque fois. Tu prends des risques. Tu prends des gros risques. Et derrière, donc, Ivar qui va tout simplement faire... Alors, ça m'embête qu'il appelle ça le World Strongest Slam. Il faut pas, je l'ai déjà dit. C'est la prise de Mark Henry. Mark Henry était vraiment, officiellement, le World Strongest Slam. Il avait gagné le concours. Il s'est fait plier. Mais il s'est quand même battu. Il a fait tout ce qu'il a pu. Mais voilà. Dans la chaîne alimentaire, Tozawa est tout en bas.
Ah oui, tout en bas. Et autant le match du Miz où, comment dire, dans l'absolu sur le papier, il y avait autant de chances que le Miz gagne que Tozawa gagne. Et pour autant, l'exécution a rien à voir, quoi. On a à aucun moment eu peur de quoi que ce soit. Contre Ivar, quoi. Il y a pas, voilà. Donc bon, ça c'est pareil. Je l'inscris dans un match de Noël à la con où il se passe n'importe quoi. Et on a donc Akira Tozawa dans un match en prime time en SmackDown. Pourquoi pas.
Ouais, écoute, c'est l'esprit de Noël. C'est comme ça. Et puis bon, Monday Night Raw, donc il y a du temps pour tout le monde. Et il y a du temps pour Seth Rollins, notre champion poids lourd, qui arrive, qui a le mic. Pas de CM Punk ce soir, il n'était pas là. Toi. CM Punk, il va faire de petites apparitions comme ça, à droite à gauche. On ne peut pas savoir. Vous prenez un ticket en disant je vais voir CM Punk, et puis finalement, il n'est pas là. Pas ce soir, il n'est pas là. Mais c'est pas grave, parce que Seth Rollins, il a un autre programme. Il a un vrai programme pour là, tout de suite, maintenant. En tout cas, pour le 1er janvier. Puisqu'il va affronter Drew McIntyre. Il est super motivé, il est super chaud, et Drew McIntyre vient rapidement l'interrompre. Il dit, écoute, enfin, Rollins dit, écoute, j'ai pas oublié un tout petit coup de boule, alors t'as intérêt à faire attention à ce que tu vas dire, ce que tu vas faire. Mais Drew McIntyre, il dit, écoute, je suis venu te dire bravo, merci, merci à toi pour ce que t'as fait la semaine dernière, parce que tout le monde là dans les backstage, ils ont tous léché le cul là, de CM Punk, et toi, t'as eu le mérite de dire vraiment ce que tu pensais. Donc, t'es un vrai leader, t'es champion, et t'es un vrai leader, donc big up à toi. Donc, Drew McIntyre, toujours voilà, dans sa transition vers les forces du mal, mais qui sait reconnaître les bonnes choses. Voilà, il voit les choses, c'est la justice. La justice qui est importante aux yeux de Drew McIntyre. Voilà, après, il compare un petit peu, voilà, il revient un petit peu à lui, c'est le mur des lamentations à nouveau, hein, évidemment. Drew McIntyre qui va se plaindre. Seth Rollins, lui, il voit sa famille, hein, c'est cool, mais lui, Drew McIntyre, l'Écossais, il voit pas sa famille, hein, il voit pas sa famille, ça fait 16 ans comme ça, il se demande toujours si ça en vaut la peine, et puis là, on part sur un truc un peu chaud, là, il parle de son père qui est vieux, et puis que c'est un petit peu tendu, là, quand, à chaque fois, il y a eu des grands événements dans la famille, les mariages, les naissances, il n'était pas là, et puis tout d'un coup... tu dois avoir des discussions difficiles hein, avec ta famille, notamment quand des gens deviennent malades, et puis tout d'un coup les gens sont plus là. Il parle de sa famille, il dit ben voilà. Grosso modo, on nous parle. Alors je sais pas si tu sais des choses, s'il y a eu peut-être un décès dans la famille de Drew McIntyre, peut-être.
Ouais, ça me dit rien.
Parce que franchement, c'était chargé, quoi. Il y avait les larmes aux yeux et tout. Je dis, waouh, ok.
Ouais, c'était. Il y avait... Ouais, je suis d'accord avec toi. C'était spécial.
Il s'est passé un truc récemment. Ou en tout cas, c'est chargé. C'était émotionnellement chargé, en tout cas, pour Drew McIntyre. Et donc, il dit, à cause de tout ça, génial, c'est simple. Il a besoin, l'Écossais a besoin du titre de Seth Rollins. Et pour ça, il est prêt à tous les sacrifices, à blesser, à détruire Seth Rollins à Day One. Et Rollins, il dit, c'est ça, tu dis des choses, tu crois, mais tes actions n'ont rien à voir, tu me dis merci, mais derrière, tu fais des sales coups, j'ai quand même du respect pour toi, t'es venu me voir pour avoir un rematch, t'as réussi à obtenir son rematch, t'as besoin du titre, mais qu'est-ce qui te fait croire que ça va être différent cette fois, là, le 1er janvier 2024, il n'y a aucune raison. Tu vas peut-être tricher, peut-être. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un sale coup? Hein. Alors, il faut que tu prennes tes responsabilités, tout simplement, c'est ce qu'il lui répète. Je te déteste pas, j'ai juste de la pitié pour toi. Merry Christmas, mon bon Drew. On se retrouve au 1er janvier. Et là, Drew McIntyre qui s'en prend à Seth Rollins et qui le tabasse avec un énorme slam sur les marches d'escalier. On joue sur un tableau. Humainement très complexe.
Donc on n'avait pas. Ouais. Et puis ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu ça. On se souvient il y a quelque temps de la capacité de Seth Rollins d'aller sur ce terrain-là. Ouais. En allant chercher des émotions, en allant provoquer des choses. Ça avait été hyper intéressant sur certains segments qu'il avait eu par le passé, où il nous avait montré qu'il était capable de faire ça. On avait eu aussi cette confirmation avec la Bloodline quand ils étaient aussi allés sur des sujets très assez perso, etc. Mais là, c'est Drew qui amène ça. Et moins habitué, hein, très clairement, pas habitué à ce registre-là de sa part. Alors, ça tombe bien parce qu'en face, il a quand même quelqu'un qui peut répondre. C'est étonnant, le positionnement. C'est pas inintéressant du tout. Après ça part à la bagarre, mais évidemment, parce qu'il y a quand même un peu. Mais le fait que ce positionnement-là, et tu l'as dit, malgré tout ce que lui dit McIntyre, Seth Rollins reste sur plutôt de la pitié que de l'énervement et donc de la haine ou de la détestation. Je sais pas trop comment ça va se terminer, et puis on sait pas trop pourquoi il a mis tout ça en avant avec sa famille, Drew McIntyre. J'ai bien aimé quand il a quand même dit qu'il avait besoin en fait du titre par rapport à tout ça. Et le terme est important. Il voulait pas le titre, il avait besoin du titre. Ça renvoie à autre chose de plus passif, de plus où là où il se positionne en victime en fait. Hein, comme tout, disons que ça vient conclure toute la partie un peu de victimisation ou de tristesse ou de sentiments qu'il amène avant. Et j'ai trouvé ça assez intéressant comme positionnement. Et ouais, forcément, pour Day One, ça, bah, ça amène de l'attention, ça amène pas mal d'émotions. On va voir comment ça va se passer. Intéressant de voir Drew McIntyre sur, sur ce registre-là. On l'avait déjà vu un petit peu, hein, parce qu'il avait eu du mal à se remettre de sa défaite à Clash of the Castle, par exemple, où il nous avait montré que ça l'avait affecté. Là, on revient un peu aussi sur, ce, sur cette facette de, du personnage qui est intéressante. Et puis contre, contre quelqu'un qui saura jouer ça là-dessus à la perfection. Donc, ça peut être sympa les semaines à venir, quoi. Voilà.
Ouais, ouais. On est vraiment. Non, on a des scénaristes et puis des catcheurs qui sont vraiment. C'est l'acteur studio, quoi. Ils vont chercher des émotions ouais. fortes, ancrées en eux. Donc, visiblement, Drew McIntyre, de parler de sa famille, ça permet de le mettre en, dans une transe, dans un état, toi, assez particulier qui lui permet, voilà, de vraiment de jouer. De naviguer en eau trouble hein, dans ses motivations et ce qu'il ressent. Et c'est un personnage hyper complexe. Hein. Cette année aura été complètement folle. Tu le disais tout à l'heure, on va voir les Catch-up Awards qui vont tomber là très bientôt. On vous balancera la date, évidemment. On a quand même des personnages assez riches, assez complexes. Et là, ce Drew McIntyre qui, effectivement, vient nous offrir encore une promo assez incroyable. Il y a Seth Rollins aussi que j'ai trouvé très, très bon. Qui arrive à naviguer quand même. Ouais, il faut dire que la semaine prochaine, il était face à CM Punk, il se retrouve face à Drew McIntyre. C'était deux partitions différentes, et là, coup sur coup, il nous a vraiment réussi à. Voilà, c'est le même personnage, mais qui interagit avec deux types différents, enfin deux autres personnages différents, et qui reste lui-même malgré tout. Hein, voilà, on ne change pas la personnalité du personnage qui est Seth Rollins, parce qu'en face, c'est plus le. Voilà, pour la semaine, c'est plus le même adversaire qu'il a, et tout d'un coup, c'est plus le même. Non, non, non. Les deux sont vraiment très, très, très fidèles à ce qu'ils sont, et c'est vrai que ça nous offre des sacrés échanges. Hein,
parce qu'il
n'a pas trompé. Hein.
En conservant en fait son fond de personnage, il pivote juste sur certains angles en fonction de voilà du segment et de la personne qu'il a en face, et tout en restant hyper crédible quoi. Donc ouais, chapeau.
Chapeau, chapeau, chapeau à nos artistes de la corde à linge, évidemment. Voilà, pour cette grosse séquence, le 1er janvier, ça risque d'être complètement ouf. Hein. Moi, je te le dis, Juliel. On va commencer l'année, il va se passer des choses. Je reprends le fil, tout simplement, et on arrive au main event, si je dis pas de bêtises, de ce Monday Night Raw. Oui, je n'ai rien oublié. Je voulais laisser personne sur le bord de la route avec.
Tu as oublié le petit Kaiser. On a eu un petit match.
Ah ouais, non, j'en ai parlé. Kaiser contre.
Ah oui, pardon.
Contre Jey Uso, hein, ouais, je l'avais mis.
C'est ça.
Pour ta défense, j'ai été le chercher, je suis allé dans le futur. Toi, c'est comme le fantôme de Noël.
Oui, c'est quand on a filé le
futur et je suis allé le récupérer avec son match face à Jey Uso, qui effectivement, c'est pas terminé en faveur d'Imperium. Et là, on va voir si l'autre faction forte, le Judgment Day en l'occurrence, va réussir à s'en sortir un peu mieux ce soir, puisqu'ils défendent leur titre face aux Creed Brothers, hein, qui viennent de débarquer tout droit de NXT, et qui ont quand même couché quasiment toutes les tag teams chaudes du show. Hein. Donc ça, c'était assez incroyable. Ils ont battu le New Day, mine de rien. Et ce soir, ils affrontent donc Finn Balor et Damien Priest. Avant ça, on a une dernière petite séquence, parce qu'il faut parler comme de cette histoire de JD qui s'est fait virer de qui se fait virer de R-Truth.
Ouais.
Donc en fait, JD il y croit pas trop, il dit bah attends c'est pas vrai cette cibule, je sors pas. Puis Damien il fait bah écoute t'as quand même vraiment perdu contre R-Truth quoi, genre la honte, tu sais, ça me faisait trop marrer. Il était mort de rire. Enfin, toi, genre même, enfin qu'est-ce que tu veux que je te fasse d'autre, tu perds contre R-Truth, je suis obligé de te virer.
T'as perdu. Limite, même
s'il n'y avait pas
la c'est la règle.
Plus, c'est la gêne, quoi. Non, mais c'est la grosse gêne, quoi, de perdre de faire ça à autre chose. Rien replay qui fait, c'est bon, il y en a marre, là, on se calme, tout ça. Quelqu'un a perdu dans la faction, c'est pas cool, on devrait tous être attristés, quand même. Tu dis, ouais, mais il y avait la stipu et tout, il doit partir. Damien Priest qui lâche pas. Il aime bien, j'aime bien aussi cette relation entre Damien Priest et JD. Voilà, on sait que l'autre, il voulait pas le voir, et maintenant qu'il y est, bah, du coup, il en profite pour bien l'emmerder. Il dit, vas-y, me sors pas, s'il te plaît, t'es pas sérieux. Il dit, ouais, non, c'est beau. Elle était toujours dans le Judgment Day pour l'instant. Donc, ça, c'était plutôt. Bon, clairement, c'est le Judgment Day qui décide finalement de la valeur de cette stipulation. Ouais. Et ce soir, donc, on apprend une chose, c'est que Rhea Ripley, à Day One, elle va affronter donc Ivy Neal pour le titre en jeu. Enfin, le titre sera en jeu. Donc, quand je parlais tout à l'heure de tout ce que craignait Giscal, eh ben, ça arrive. Le 1er janvier, Giscal, accroche-toi. On en avait parlé. Il y aura le titre qui sera en jeu dans ce match. Donc là, clairement, toi, on en parlait tout à l'heure. Il y a du vide. Il y a du vide dans la division féminine. Là, il faut aller. Il y a personne pour aller chercher Rhea Ripley. En tout cas, personne qui ne soit pas occupé à autre chose. Évidemment, derrière, on sait bien que Becky Lynch, elle existe. Mais elle existe dans un autre univers où il y a Nia Jax. Donc forcément, c'est un petit peu compliqué. Et derrière, il y a eu le match. Un énorme match pour terminer ce Monday Night Raw spécial Noël, puisque les Creed Brothers vont tout donner et vont quasiment, je dis bien quasiment, réussir l'impossible. Mais le Judgment Day est trop fort. En plus, bah, le Judgment Day, ils sont pas tout seuls. On a Evinal qui se retrouve avec Rhea Ripley, donc ça cherche des embrouilles. Julius qui chope Finn Balor sur ses épaules pour la Brutus Ball. Mais Priest qui arrive pour bloquer le compte. On a eu des comptes de 2,95 ouais. Dans ce match. C'était assez incroyable. Des Swanton à l'extérieur du ring. Ça part dans tous les sens. Le Sling Blade. Balor qui met le dropkick, qui monte. On dit, ça y est, il y va. Mais Julius qui le chope pour stopper, empêcher Finn Balor. Et là, c'est Priest qui prend le tag. Et les Creed Brothers qui réussissent à revenir en plaçant une autre Brutus Ball sur Damien Priest. Mais cette fois-ci, c'est Finn Balor qui fait un coup de grâce pour arrêter le compte. Donc ça, c'était incroyable. Les quatre hommes se sont donnés à 100%, si ce n'est plus ce soir. Et on arrive à la fin du match quand Balor balance Brutus à l'extérieur du ring et Priest qui en profite pour choper Julius dans son immense Chuck Slam, là, t'es à 2,50 mètres au-dessus du sol. 1, 2, 3. Victoire de Judgment Day. Bon, là, j'irais victoire de tout le monde, hein, parce que le match était incroyable. Un beau cadeau de Noël avant Noël.
Ouais, clairement. Sur le... Après, il fallait, parce que par rapport à la construction depuis leur montée des Creed Brothers, il fallait quand même repositionner Judgment Day. Ça ne pouvait pas être un squash, très clairement. Et puis bah il y avait trop de talent dans les cordes pour que ça soit un truc moyenasse quoi. Donc vraiment il y a eu une vraie grosse adversité. Il y a eu quelques moments où on s'est dit oula bah ça y est le Judgment Day repart vers quelque chose d'un peu glauque à perdre contre voilà. Et pas du tout il gagne à la fin avec vraiment des effectivement tu l'as dit hein le il y a eu des centaines à l'extérieur là où tu fais waouh c'est toujours impressionnant.
Oh là là.
Je n'irai pas, hein, soit clair. Et non, c'était vraiment un super match. Victoire du Judgment Day, quand même, à retenir à la fin. Donc très bien. C'est Priest qui fait le tombé du reste. Et donc très très bien. Je ne sais pas comment ça va se. Il y a une partie un peu rigolote avec. Avec McDonagh, il y a une partie où il continue à faire à refaire régner, pas tout à fait la terreur, mais au moins à faire régner la force sur Raw. Donc, Judgment Day est quand même bien positionné. Et puis, quand on fait des finishers, enfin des quand on fait des fins des main events catchesques de grande qualité, bah voilà, ça fait tout de suite finir le show avec le sourire, avec la banane, comme on l'aime. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai ressenti à la fin de ce Raw. Ce 400e row reviewé par Catch.
Ouais. 400e row, et je suis bien content qu'on ait ce main event parce que Julien, ça faisait quelques semaines que les main events étaient un petit peu en dessous parce que bah voilà, en face il y a la NFL, c'est le lundi soir, c'est chaud et du coup bah la WWE bah réajuste un petit peu les programmes hein. Et c'est vrai que on a eu des main events Nakamura contre Cody Rhodes, on a eu des matchs féminins, on a eu des choses comme ça qui étaient un petit peu qui n'avaient pas des têtes de main event. Là, clairement, on a eu un vrai main event avec des paillettes, avec des petits jeunes qui montent, qui ont tout donné. La grosse faction qui avait fait également l'opener, on les retrouve à la fin, c'est ça qu'on aime, hein. C'est comme ça que ça fonctionne.
Ouais, fil un rouge,
de
mon... ça.
Bah ouais, un gros fil rouge, et puis de la comédie, et puis quand les choses sérieuses doivent arriver, et ben les choses sérieuses arrivent, et à la fin, on en ressort essoufflé, mais ravi. Donc franchement, là, j'ai trouvé que ce main event était super. Grosse prestation des Creed Brothers qui nous ont sorti là, les Brutus Bull, ça... Dans tous les sens, là, je pense qu'il est rentré en roulant, notre ami Brutus Creed, et qui ont sûrement marqué des points là pour cette année là qui arrive, 2024, l'année de Chelsea Green et l'année des Creed Brothers. Voilà, comme ça, c'est dit, comme ça, c'est fait. Et c'est donc comme ça que c'est terminé notre Monday Nitro, mon bon Géliel. Alors, c'est toujours un sacré exercice hein, avec Monday Nitro, mais c'est l'heure du mot de la fin. Si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît, pour cet épisode du 18 décembre 2023.
Je suis là. Est-ce que tu m'entends ?
Oui, oui, je t'entends. Nous sommes suspendus à tes lèvres. Nous voulons savoir ce que tu as aimé, ce que tu as détesté et la note que tu vas donner à cet épisode.
Eh ben moi, j'ai bien aimé le repositionnement du Judgment Day sur ce Raw. En flop, j'ai vraiment eu du mal avec la partie perte de ceinture, Chelsea Green, Caden Carter, Katana Chance, c'est absolument n'importe quoi.
Et puis,
pour finir, un bon 4, parce que franchement, super épisode. Quoi. Ouais, vraiment super épisode. Et avec, alors comme d'habitude, c'est toujours un peu triché, mais quand on termine avec un main event 4S qui est en plus en tag team, où il y a de l'énergie à revendre des deux côtés, voilà, c'est toujours forcément génial. Quoi.
Ouais. Et il faut se dire qu'en plus derrière, il n'y avait même pas CM Punk, il y avait à peine Cody Rhodes. Donc c'est pour vous dire quand même la qualité de ce roster qui arrive à aller choper des 4 étoiles là comme ça, tranquille, en épisode de Noël. Écoute, tout ce que tu as dit, les louanges et tout. Moi, mon flop, tu sais, ça va être marrant parce que ça va un petit peu accompagner le tien. Je vais le donner. Alors, à Samantha, la pauvre, attention, hein, j'entends déjà là. Les hurler sur le Discord. Samantha, son annonce pour Chelsea Green, elle l'a pas fait comme elle le fait d'habitude. Le Chelsea Green, elle l'a pas fait, et visiblement, on lui a demandé de plus le faire. Alors, tu vois, ça, c'était pas cool. Et ce qui me fait penser justement que, on a décidé que c'était peut-être un peu trop cool pour une heel d'avoir son nom annoncé de cette manière. Je ne sais pas pourquoi, mais on a dit. Donc, en fait, mon flop, je donne à la personne qui a dit à Samantha qu'il fallait qu'elle arrête. S'appeler Chelsea Green, comme ça. C'est vraiment pas cool. C'est pas l'esprit de Noël. C'est pas l'esprit de Noël. Et puis, mon top, comme tu l'as donné au Judgment Day, moi, je vais le donner à ce match, la Miz et Gunther. C'était incroyable. On s'y attendait pas trop. Ça, c'était la vraie belle petite surprise de Noël. Un match pour le titre qui a emporté la foule, et même moi j'étais emporté encore plus que pour leur premier match. Ce match retour là, il m'a complètement pris par surprise, et j'ai trouvé ça énorme. Il s'est passé tellement de bonnes choses. On a parlé un des plus de Drew McIntyre, Seth Rollins, ça c'était aussi acteur studio. Ce soir au théâtre, il s'est passé énormément de choses. Et écoute, est-ce que je vais aller jusqu'au 4 pour cet épisode? Je vais aller jusqu'au 4 si on dit que je le note comme un épisode de Noël. Ouais. Si c'était pas un épisode de Noël, je ne mettrais pas 4.
T'es pas obligé, hein, t'es pas obligé. Moi, je reviens, j'ai encore les yeux encore à nouveau plein de paillettes, donc j'ai peut-être été un peu... Ouais.
Non, j'assume. Mais j'explique pourquoi. C'est un épisode de Noël, et donc ça m'a mis... Voilà, malgré tous ces défauts, ça m'a mis une bonne humeur. Donc c'est un peu l'école des fans. Honnêtement, je dirais que ça vaut pas 4, mais voilà, c'est l'épisode de Noël. Et il s'est passé des bonnes choses, et du coup, je vais mettre un 4. Mais attention, quand l'année va changer, on reviendra aux choses très très sérieuses. Et là, on sera strict. Sévère, mais juste. Bon, Géliel, ça y est, on a fini cette 400e analyse de Monday Nitro, donc cette 400e semaine de catch-up. Je vous rappelle qu'on analyse tous les shows de la WWE depuis bientôt 8 ans, 400 semaines, on n'a manqué aucune semaine. Toujours là au rendez-vous, la streak est forte. La streak est là. Objectif, c'est de battre la streak du Taker, tout simplement.
La streak est incroyable, surtout.
La streak est incroyable, il faut le dire. Et oui, et tout simplement pour ne manquer aucun épisode, puisque nous, on n'en manque aucun, il n'y a pas de raison que vous, chers auditeurs, vous en manquiez, il suffit de vous abonner, c'est gratos, comme le dit Ringside, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est également sur YouTube, les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram, Catchup CDC, le lien vers notre Discord, où justement, il y a de la Discord qui se place, parmi tous ces gens qui ont des avis tellement différents, des gens qui sont pas contents. Venez discuter un petit peu, venez vous mettre entre Giscal et Géliel concernant les Kabuki Warriors. Hein, venez dire ce que vous en pensez. Qui a raison. Tout le monde a raison. C'est ça aussi l'esprit.
C'est très très sympa effectivement de venir participer. En plus, c'est sous forme de chat, et puis il y a le concours de pronos aussi sur les live events. avec toujours une grande tape dans le dos qui est prévue pour le gagnant. Hein, ça, c'est voilà. Et certainement peut-être d'autres choses, mais en tout cas, on verra. Et puis, donc venez parce que effectivement, ça permet de contribuer à la communauté. C'est quand même très sympa. Et puis, ça permet de donner des avis à Papy, à Ringside, à Giscal, à IRM évidemment, à tous ceux qui sont à Raphaël aussi. Tous ceux qui sont au podcast, qui review les émissions avec tout. Voilà, venez.
Venez nous rejoindre. Bon, bah écoute, merci à toi, Gélia, justement, d'être venu. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, là, cette petite visite surprise que tu m'as faite. J'étais là à attendre, dit qui va venir pour cette 400e semaine, et puis t'es apparu comme ça. Et donc, bah écoute, je te propose un petit verre de vin chaud pour fêter ça. Tout ça.
Allez. Allez, je prends. Il fait pas beau, il fait pas chaud, donc c'est avec plaisir. Je prends.
Allez, évidemment, on vous souhaite d'ici là à toutes une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Salut à tous. Oh, oh, oh. Ah non, merde, ça, c'est le géant vert.